I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on demande jamais comment s'est passée sa journée au travail.
Ah bon? Là, ouais, parce qu'il y a un tabou?
Mais c'est ça, parce que les soins palliatifs, ça fait peur et que voilà, les gens veulent pas savoir ce qui se passe dans mon service.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast.
Ce podcast est sponsorisé par Patreon et aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 218 à soutenir financièrement Sens Créatif sur Patreon. Et pour ça, on voudrait vous dire merci.
Merci, merci.
Merci, car grâce à votre soutien, vous nous aidez mois après mois à produire ce podcast.
Grâce à vos dons, vous nous permettez non seulement d'investir du temps, mais aussi de l'argent dans ce projet. Cela nous permet par exemple de déléguer une partie du travail, en payant par exemple un monteur pour nos épisodes, mais aussi de payer notre vidéaste quand on vous propose du contenu bonus sur YouTube, ainsi que les divers frais liés à la production d'un tel projet.
On se sent porté, et si Sens Créatif est ce qu'il est, c'est grâce à votre soutien sur Patreon. Bref, merci du fond du cœur. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre page sur www.patreon.com/senscreativepodcast ou tout simplement à visiter le site de Patreon pour explorer cette plateforme de financement participatif.
Et qui sait, peut-être que cela pourrait vous inspirer pour financer vos propres projets. Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com.
Et on est de retour pour un nouvel épisode aujourd'hui. Comment ça va, Laurent?
Écoute, ça va super bien, malgré le temps un petit peu maussade aujourd'hui, mais sinon...
Ouais, c'est vrai, il faisait beau les deux autres jours.
Bah oui, ça change tout le temps.
Oui, bon, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et aujourd'hui, on est très très content de vous présenter un épisode que personnellement, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que toi aussi, tu l'aimes beaucoup.
Oui, je partage aussi cette...
Oui, voilà. On est très content de vous présenter notre interview avec l'homme étoilé. Alors, l'homme étoilé, qui est-il?
Alors, l'homme étoilé, c'est Xavier, infirmier en soins palliatifs dans un hôpital de l'Est de la France, et il est également auteur de bande dessinée.
Ouais.
C'est incroyable, il fait deux métiers.
On a été le rencontrer dans son hôpital et c'était une très très belle expérience, une très belle rencontre humaine. Il a sorti deux bandes dessinées intitulées À la vie et Je serai là, et c'est une interview comme je les aime. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Dans cet épisode, on discute de son parcours et de ce qui l'a amené vers une carrière d'infirmier en soins palliatifs.
On va aussi parler de cette philosophie palliative qui lui est si chère.
De sa relation avec ses patients dont il s'inspire pour raconter son quotidien en BD.
On va aussi parler de ses premiers pas en tant qu'auteur et de la genèse de ses deux bandes dessinées.
De son rapport conflictuel avec le succès et la médiatisation de son travail.
De ses futurs projets en BD.
Et pour finir, on geek sur la musique, le rock, le tatouage et d'un certain Elephant Man. Je crois que tu kiffes pas mal.
Oui, oui, je le kiffe un peu.
Voilà, donc voilà le programme de la journée. Sur ce, trêve de bavardage, on vous laisse en compagnie de l'homme étoilé. Bonne écoute.
Eh ben c'est parti.
Allez,
on y va.
Bonjour Xavier.
Bonjour Jérémy.
Salut Xavier. Et tu sais qu'on va pas démarrer.
Non, c'est très bien.
C'est alors
très
c'est
bien.
Super parce qu'en fait on va la démarrer comme ça, parce que ça fait trois fois qu'on essaye de la
voilà,
démarrer
voilà.
Cette interview.
Le
Et en fait,
est...
Xavier, aka l'homme étoilé, nous reçoit aujourd'hui sur le travail
oui,
où tu exerces la profession d'infirmier en soins palliatifs.
Tout à fait.
Et c'est pas ta seule profession.
Non. Non, parce que depuis peu, je suis devenu auteur aussi de bandes dessinées.
Exactement. Et du coup, la question que tout le monde te pose, l'homme étoilé, pourquoi?
L'homme étoilé, c'est le petit nom qu'une patiente que j'ai nommée Blanche m'a donné à l'issue de 5 jours de galère pour tenter de faire rentrer un petit peu de vie dans sa chambre, et on y est arrivé avec quelques chansons de Brel. Et je pense que elle a tout simplement pas vu mon nom sur ma blouse, et donc elle me désigne comme l'homme étoilé en rapport aux étoiles qui sont tatouées autour de mon coude. Et quand il s'agit de rassembler toutes mes histoires sous un nom, celui-là m'est revenu à la mémoire, et j'ai trouvé que ça symbolisait assez joliment le message que je voulais diffuser, et autant dans les chambres que dans cette BD, donc je l'ai gardé.
Oui. Est-ce que tu rajoutes des étoiles dans la vie des gens, c'est ça?
De la vie, en tout cas.
De la vie. Ouais. D'où la fameuse expression que tout le monde reprend quand on te rencontre, c'est
ajouter de la vie au jour.
Voilà.
À défaut d'ajouter des jours à la vie.
Elle est pas de moi. Hein. C'est un grand oncologue qui avait dit ça. qui disait que les soins palliatifs, c'était donc ajouter de la vie aux jours à défaut d'ajouter des jours à la vie. Et je trouve qu'effectivement, ça résume extrêmement bien la philosophie palliative. Donc, j'avais à cœur de la reprendre dans cette BD.
Ouais, super, super.
Tant qu'on est sur les belles phrases, il y a une autre phrase en fait que t'aimes beaucoup, c'est « Ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre ».
Qui est pas de moi non plus.
Voilà, qui est pas de toi non plus, mais tu vas nous expliquer en fait ça, d'où vient cette phrase.
C'est une grande psychologue, Marie de Henzel, qui en a fait d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Et oui, je pense qu'effectivement, le contact des personnes en fin de vie nous permet de nous recentrer un petit peu sur notre propre existence, ce qu'on en fait, notre vie au quotidien. Et voilà, de profiter de la vie au maximum, parce qu'on se rend compte que c'est un équilibre très fragile qui peut foutre le camp à tout moment. Et donc effectivement, ouais, le contact des personnes en fin de vie, moi en tout cas, m'a permis de peut-être davantage célébrer la vie au quotidien. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie en fait?
Un pur hasard à la base. Moi, j'ai quitté le lycée et j'ai commencé une fac de psycho. Sauf que j'arrivais pas à me projeter dans la blouse du psychologue. La psyché humaine, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, mais je me voyais pas psychologue. Et je me voyais pas médecin non plus, parce que je pense que j'étais bien trop fainéant pour me taper à 14 années d'études.
C'est vrai que c'est long.
Ouais, c'est clair. Ah,
c'est vrai que c'est long.
Donc, infirmier, ça m'apparaissait comme un juste compromis entre les deux. Et puis, je sais pas, ce métier me fascinait, mais j'arrivais pas vraiment à dire pourquoi. Et donc je me retrouve après deux années de psycho qui se sont pas couronnées de succès à frapper à la porte d'un institut de formation en soins infirmiers, et je suis reçu par la directrice de l'école. Alors je m'attendais pas du tout à avoir un entretien avec elle.
Que tu dessines dans ta BD, hein,
c'est ça. T'étais pas prêt, quoi.
Je l'ai dessiné un peu plus sévère, elle ressemblait pas vraiment à ça, la pauvre.
Mais t'étais pas prêt.
J'étais pas prêt du tout, non.
Et avec ton beau t-shirt Marine Monson.
Ouais, et là par contre j'ai été cool, ouais, parce que le t-shirt était vraiment dégueulasse. Et Marine Monson en grand dessus, mais je m'attendais tellement pas à être reçu par la directrice que moi je suis venu les mains dans les poches, quoi. Je déposais mon dossier d'inscription un peu,
puis voilà, tu portes ton t-shirt dans ta vie de tous les jours et
tu portes plus.
Non, c'était un t-shirt de la période Hollywood. Alors, ouais, il était en grand dessus, et j'étais mort de gêne.
La directrice a dû dire, c'est qui ce gars-là?
Je sentais qu'elle était pas open pour Marilyn Manson. Et puis elle me demande ce que je viens faire là, et je sais pas quoi lui répondre, en fait, parce que moi je suis vraiment venu par intuition. Et véritablement, elle me questionne, je sens qu'elle essaie de gratter pour comprendre quelles sont mes motivations profondes, la première chose qui m'apparaît comme une réponse, c'est effectivement mon rapport un peu compliqué avec les nombreux problèmes de santé de ma mère quand j'étais enfant, qui m'ont un petit peu mis face à une certaine forme d'impuissance que j'ai mal vécue étant enfant, et avec laquelle je pense que, enfin, sur laquelle j'essaie de retravailler en tant que jeune soignant. Et puis au décours de mes nombreux stages, je l'aborde, hein, dans Je serai là. C'est le souvenir de mon arrière-grand-mère qui m'est souvent revenu à la mémoire. Ça a été le premier décès que j'ai connu, ma nénène, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, ma première expérience finalement avec les soins palliatifs, parce que j'étais à son chevet dans les derniers instants de sa vie, elle ne parlait plus. Et malgré tout, c'est les meilleurs moments que j'ai vécu avec elle, parce qu'on communiquait énormément par d'autres biais, en fait, par le sourire, le regard, le toucher. Et moi, ça a été des moments que j'ai vécu avec beaucoup d'émotions, de richesse. Et je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai découvert les soins palliatifs, que j'avais envie de reproduire cette expérience véritablement.
Ouais. Oui, et ben, tu en parles aussi dans ta BD, que quelque part, en soignant les autres, les soignants pensent leurs propres blessures.
Ouais, j'en suis convaincu, ouais.
Et c'est ça fait combien d'années que t'es soignant, du coup?
12 ans.
Et donc en 12 ans de temps, t'as pu un peu penser tes propres blessures?
Oui, mais je me rends compte que c'est un processus qui s'arrête jamais, en fait. Il y a pas un moment où alors peut-être qu'un jour j'arriverai au bout du chemin et je me dirai c'est bon, là j'ai accompli ce que je voulais accomplir, mais je me rends compte que moi, ça me donne beaucoup de valeur, en fait, de m'occuper de mes patients, de m'investir dans chaque chambre pour tenter d'apporter à toutes ces personnes dans des situations très compliquées un peu de, ouais, une espèce de parenthèse de vie, de plaisir, de joie, de bonheur. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Et c'est un processus sans fin, en fait. Il y a pas un moment où je me dis, c'est bon, j'ai assez donné, maintenant je passe à autre chose. Peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, mais c'est ce que j'explique souvent à l'occasion d'interviews ou de dédicaces, c'est que ce rapport privilégié, par exemple, que j'ai eu avec Nani, une patiente dont je raconte l'histoire dans La Vigne, qui m'avait symboliquement adopté comme petit-fils, c'était la première fois que j'entretenais une relation aussi particulière avec une patiente. Mais par la suite, des nannies, il y en a eu plein d'autres, en fait. Des nannies et des papilles, on va dire. Et alors, pas des personnes, enfin, ça n'a pas été la même histoire, mais je me suis rendu compte que je me suis investi au chevet de plein d'autres patients de cette même manière, comme si, enfin, comme une manière de penser ces blessures de petit-fils qui a pas pu accompagner ses grands-parents à la fin de leur vie. Donc ouais, c'est un processus sans fin, en fait.
Ouais, ouais.
Mais ce rôle de soignant, c'est aussi un rôle d'accompagnant, mais aussi de passeur. Et quand tu es confronté à des personnes qui sont, on peut dire, victimes de la maladie, c'est quoi, toi, ton rapport au syndrome du sauveur, en fait? Comment tu abordes, en fait, ce ressenti?
Bah, je pense que déjà, les soins infirmiers s'inscrivent pas dans l'art de guérir, mais dans l'art de soigner. Et ça, c'est un truc qu'on m'a appris assez rapidement à l'école. Notre but, c'est pas de les sauver, les gens, c'est de les soigner, c'est de les accompagner. C'est le rôle du médecin de les sauver, ou pas, si malheureusement il n'y arrive pas. Et nous, en soins palliatifs, je pense que voilà, très rapidement, on a fait le deuil justement de cette guérison. On sait que la plupart des patients qui franchissent les portes de notre service en ressortiront certainement un jour ou l'autre décédés. C'est pas le cas de tous les patients, ça c'est toujours important aussi de le préciser.
Oui, faut le préciser, c'est pas un mouroir.
C'est ça, c'est que on n'accueille pas que des patients en fin de vie et on n'accueille pas que des fins de vie imminentes. On a des patients qu'on suit parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Notre rôle, c'est aussi d'accueillir les patients qui sont en cours de traitement et pour lesquels les traitements peuvent voilà se compliquer d'effets secondaires compliqués.
Ouais, d'où le passage par l'hôpital, en fait.
C'est ça, contrarier un retour à la maison dans les bonnes conditions. Et donc notre rôle, c'est vraiment de faire le tampon entre l'hôpital et les soins curatifs et le retour à la maison, quoi. Et je me suis paumé dans ce que je disais.
Et tu vas y revenir.
Le syndrome du sauveur.
Voilà, c'est ça. Le syndrome du sauveur.
Et donc, je pense que nous tous et toutes, soignants en soins palliatifs, on sait que on peut pas sauver ces patients. C'est pas notre mission, en plus. Notre rôle, c'est de les accompagner au mieux, c'est de leur permettre de vivre ces derniers instants de vie le plus confortablement possible, le plus sereinement possible. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on s'investit au maximum. Donc, quand un patient décède dans ses conditions optimales de confort, de sérénité, d'apaisement, idéalement entouré des siens, notre mission est remplie, en fait. Et c'est ça qui nous nourrit au quotidien. Les soins palliatifs, en fait, grosso modo, c'est l'ensemble des soins qui vont concourir à optimiser le confort d'une personne atteinte d'une maladie incurable. Ça passe aussi bien par des soins techniques, enfin médicamenteux, l'équilibre antalgique, hein, notamment, enfin voilà, vraiment adapter le traitement au mieux pour optimiser le confort physique du patient. Et puis après, il y a aussi tout le volet accompagnement humain, psychique, moral, social aussi. Donc c'est un service dans lequel on a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui va être composée d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins, d'ergothérapeutes, d'assistantes sociales, de psychologues, etc., etc. Le but, c'est vraiment, dans tous les domaines possibles et imaginables, optimiser le confort de vie du patient, s'inscrire dans son projet de vie, que ce soit de retourner à la maison si c'est possible, d'y décéder si c'est possible, de réaliser l'un ou l'autre projet, en fait, si c'est possible.
Il y a la notion de singularité, en fait, du patient, de la patiente. C'est-à-dire que chaque personne est différente. Donc forcément, chaque approche et chaque relationnel que tu vas avoir avec eux vont être vraiment différents, quoi.
Totalement, ouais. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir en école d'infirmière et c'est ce que j'aimais bien dire à mes élèves, c'est que moi, j'aime bien comparer mon taf au taf d'un enquêteur, en fait. C'est que chaque jour, quand je rencontre un nouveau patient, une nouvelle patiente, je sais pas qui est dans ce lit, je connais pas cette personne et j'ai besoin d'aller à sa rencontre, de comprendre qui je soigne, de comprendre ce que cette personne attend de moi et de comprendre qui elle est aussi pour arriver à trouver voilà la corde à faire vibrer pour amener quelque chose de plus, quelque chose de différent, en fait, dans cette chambre.
Moi, il y a une phrase qui m'a énormément touché dans ton boulot, et justement qui vient un peu à l'écho à ce que tu dis, c'est ton travail, c'est d'accompagner les gens, c'est pas de les devancer. Alors c'est dit ouais. beaucoup mieux dans la bande dessinée. Mais moi je trouve ça trop beau, parce qu'on a souvent un petit peu cette envie d'apporter des réponses ou de devancer, mais en fait, et puis vu le sérieux de ton travail, t'es obligé de marcher à côté des gens, et voilà, moi je trouve ça super beau quoi.
On pourrait dire que c'est écouter avant d'agir, mais toi tu parles aussi de beaucoup observer même avant d'écouter, parce que t'as des patients qui ne parlent pas.
C'est ça, mais en fait c'est être là, et c'est pour ça que j'étais content de donner ce titre à ce deuxième album. C'est que je pense que l'essentiel de notre travail, c'est
juste pour la petite parenthèse, c'est je serai là, mais en fait tu parles du passé.
Du quoi?
Dans je serai là, en fait ce sont des flashbacks en fait.
Ah oui, ouais,
c'est ça qui est intéressant.
Oui, voilà. Bien sûr, ouais.
Excuse-moi.
Oui, mais en fait, je pense que c'est notre premier engagement en tant que soignant en soins palliatifs, c'est d'être là. Je pense que tout réside dans cette volonté à se montrer disponible à tout instant. Je pense que c'est l'essentiel de la médecine palliative, et effectivement, je pense qu'accompagner une personne, c'est ce que je dis, c'est pas aller au devant d'elle, c'est marcher à ses côtés, à son rythme. Je pense que c'est assez humain. Quand on identifie un problème, on veut y trouver une solution immédiatement. Mmh. Et en fait, si t'adoptes cette logique-là dans les relations humaines, ça marche pas. Parce que tes solutions ne conviennent qu'à toi, et encore, elles vont pas forcément convenir à la personne qui est en face de toi. Et face à l'évidence de la maladie, à l'imminence de la mort, chacun trouve ses solutions en lui-même, et nous, on est peut-être simplement un guide, une porte ouverte pour instaurer du dialogue autour de ça, de la communication, mais en aucun cas, en fait, on apporte de solutions, on aide juste les gens à cheminer vers leurs solutions pour faire face à ces moments assez pourris, en fait, de la maladie et de la fin de vie.
Ouais.
Et pour faire le pont avec ton travail d'auteur de bande dessinée, ces moments en fait que tu as passé avec ces personnes, quand on lit ton fil Instagram, qu'on lit la bande dessinée, on se rend pas compte en fait du cheminement narratif et du process en fait d'écriture qui a derrière, parce que ça t'a pris des années. Et on a l'impression que c'est un petit peu jeté, parce que c'est de l'autobiographie, donc forcément il y a ce côté d'instantanéité pour le lecteur. Mais toi justement, quel est ce process en fait, comment t'es allé chercher ces histoires là qu'est-ce qui t'a donné au départ l'idée de les mettre en bande dessinée, finalement, de les raconter?
Ça a été une succession de rencontres en fait, de moments très forts, et en parallèle avec un constat assez triste, c'est que je le dis tout le temps avec un peu d'humour, hein, c'est que moi, je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on demande jamais comment s'est passée sa journée au travail.
Ah bon? Ouais, parce qu'il y a un tabou.
Mais c'est ça, parce que les soins palliatifs, ça fait peur, et que voilà, les gens veulent pas savoir ce qui se passe dans mon service. Mais en même temps, quand j'en parle, j'ai fait le constat qu'on m'écoute toujours avec beaucoup d'attention, parce que même si on veut pas savoir, quand on en parle, vu que les soins palliatifs, en tout cas vu que la fin de vie, ça nous concernera tous un jour ou l'autre, les gens ont envie de savoir ce qui se passe en fait. Et moi, ça me frustrait, parce que je me rendais compte que mon service et mon travail étaient entourés de beaucoup de mystères, d'inquiétudes, alors que c'est pas le constat que j'en faisais au quotidien quand je suis dans mon service en fait, où j'ai vraiment l'impression, enfin, où je prends mon pied en fait. J'aime ce que je fais, j'aime me donner à mes patients. Et je vais pas mentir, hein, c'est pas rock'n'roll tous les jours non plus, mais en tout cas on essaye. Et
spécifiquement toi aussi.
Parce que dans le service en fait, entre membres du personnel en fait, vous racontez aussi les histoires. Faut passer aussi les anecdotes qui sont passées dans la journée, parce qu'elles sont importantes à transmettre. Donc il y a déjà en fait cette idée de passer l'histoire. Donc qu'est-ce qui te donne envie de les passer à un cercle beaucoup plus grand en fait, d'initié?
Mais déjà c'était de montrer aux gens ce qu'est véritablement mon travail, ou en tout cas un des aspects de mon travail. Et l'élément déclencheur, ça a été ma rencontre avec Mathilde. C'était cette patiente qui s'est donnée pour mission de m'apprendre le suédois dans ses derniers instants de vie. Et ça a été une prise en charge, mais tellement forte, tellement bouleversante, une patiente qui m'a tellement remué. que le jour de son décès, je me suis dit je peux pas garder ça pour moi en fait. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je le pose sur le papier. J'avais pas du tout l'intention d'en faire autre chose que comment dire que de le poser sur le papier comme devoir de mémoire, on va dire. Et puis j'ai commencé en fait à l'écrire, à la dessiner cette histoire, et je me suis dit mais il faut que je partage ça, il faut que je montre aux gens en fait les beaux moments de vie, de partage, d'humanité et même d'amour en fait qu'on peut vivre dans mon service. Et à Mathilde a succédé ben Blanche, Roger et puis toutes ces histoires en fait que j'ai partagées. C'est devenu une évidence en fait que je devais partager tout ça. D'une part parce que c'était important pour moi. Par devoir de mémoire et d'autre part parce que j'avais véritablement envie de briser les idées reçues autour de cette espèce de mouroir des soins palliatifs. Ouais.
Et donc le vecteur de la bande dessinée, ça a été une évidence, mais tu vas peut-être nous raconter comment t'es venu au dessin, d'où ça vient cette passion pour le dessin aussi.
Moi, je pense que c'est dans notre ADN.
Ah voilà, j'ai su que ça allait parler de Belgique. C'est parti.
Je pense que c'est moi, j'ai appris à lire dans la bande dessinée. Et je crois que la première BD que j'ai lue, c'était un Tintin.
Et
c'était lequel
Tintin.
Tu te souviens de quel Tintin?
Je crois que c'était l'affaire Tournesol. Ouais. C'est pas mon préféré, mais
c'est ton premier souvenir.
Ouais, je me souviens. Je passais un examen médical, je sais plus lequel, et ma maman m'avait offert cette BD. Et dans la salle d'attente, on était en train de la lire. Alors je sais plus quel âge j'avais, mais je la lisais avec beaucoup de difficultés.
Et beaucoup de bulles. Et, Tintin.
Ouais.
Ah, celui-là est particulièrement complexe. Voilà.
Mais c'est mon tout premier souvenir, ouais, de lecture. Et puis, enfin voilà, on avait des abonnements au Spirou, au Mickey et tout ça. Et
mon papa, il m'apportait des robes douces, parce que mon papa est flamand, et du coup c'était les recueils de Spirou, tu sais, de quand il était petit. Il était aussi abonné au journal Tintin à l'époque, quand ça existait aussi. Donc moi, ça a vraiment essayé, mais vu que je lisais pas encore à l'époque, et je lisais pas le néerlandais non plus à cette époque-là, c'était vraiment que les images, quoi. Enfin bref, c'est pour le petit aparté, mais
moi, je suis très fier d'avoir bossé pour Spirou, voilà, comme ça.
Oui,
tout le monde a dit son anecdote.
C'est vrai, voilà. Excuse-nous, Xavier.
Ah, il devient désagréable. Hein. oui, donc voilà, moi, j'ai appris à lire dans la BD, j'ai dévoré la BD à toute mon enfance, et puis, l'anecdote qui est assez marrante avec Tintin, c'est que j'adorais Tintin, mais je trouvais ses personnages tellement chiants que je les redessinais, en fait.
Tu leur mettais des tatouages, des moustaches.
Mais véridique, Tintin au Congo, en plus ça va faire plaisir à beaucoup de monde.
Oui.
Je l'ai trouvé tellement chiant à lire en fait que du coup je lui ai rajouté des piercings, de la barbe, des tatouages et je me suis fait engueuler. Mais
tu l'as gardé?
Non, malheureusement.
Ah, franchement, ce serait mythique.
Ça serait
Tintin revu par l'âme étoilée.
Carrément.
Il y aurait quelque chose.
Bon, après j'ai arrêté. Mais oui, j'ai bouffé de la BD toute mon enfance et ça s'est imposé comme une évidence parce que j'adorais en lire, j'adorais dessiner, j'adorais reproduire aussi les personnages des bandes dessinées. Mmh. Et c'est le médium avec lequel je me sens le plus à l'aise. C'est aussi c'est un univers qui me plaît, la BD en fait. Je suis pas assez à l'aise avec l'écriture. On me dit que j'écris bien. Moi, je suis pas mon meilleur public pour ça. Mais le dessin, c'est le médium avec lequel je me sens à l'aise. Et en plus de ça, je trouvais que c'était aussi un joli défi d'imposer, une BD sur les soins palliatifs. Il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits sur les soins palliatifs. De BD, il y en a très peu. Je crois qu'il y en a une ou deux. Et encore pas dans ce ton-là, en fait.
Qui sont sûrement plus graves, j'imagine.
Alors, je dirais pas grave, mais en tout cas, je crois qu'elle s'appelle Quelques jours à vivre, la BD en question. Et c'est une espèce de BD assez factuelle, je dirais, sur les soins palliatifs, qui est très bien faite, mais il y avait peut-être pas le côté rock'n'roll que moi j'avais envie d'amener, en fait.
Ouais, et qui rend ta bande dessinée et tout ton travail hyper touchant. C'est vrai, sûrement que tout le monde te le dit, mais c'est le côté vraiment.
Mais je me lasse pas de l'entendre.
Et ouais, bah voilà, mais c'est émouvant, genre à chaque fois je l'avais déjà lu, j'avais lu tes deux BD quand il n'y avait pas encore l'intégrale, et puis je l'ai relu pour le bien de l'interview. J'étais sur le canapé l'autre jour et il y avait ma femme dans le canapé avec notre petit bébé et j'étais genre. Putain, elle fait chier. Elle me fait quoi? Je fais, je connais déjà, mais il me fait pleurer et tout, tu vois. et Laurent, qui découvrait ton travail, tu m'as dit pareil.
Ouais, moi j'ai mis, c'est monté, tu vois. L'émotion, elle est montée petit à petit, et à la page 80. Et là, j'ai pleuré.
Ah, c'est quoi la page 80?
C'est précis, hein. C'est la page 80.
Alors, attends, on va la regarder ensemble.
Attends, c'est,
Parce que je sais que j'avais noté ce moment-là, mais du coup, moi, je me souviens pas forcément.
Non, mais celle-là aussi, elle est dingue. Ah,
c'est là, mais... Bah, là, on est sur
le passeur. Les auditeurs ne voient pas, hein, mais.
On est sur le passeur, ouais. On passera ouais. des petits extraits.
Page 80. C'est l'histoire de Christine, je pense. Non. Ah non, c'est l'histoire de Nani, ouais.
Ah, c'est ça.
D'accord.
Et donc on arrive, voilà, à ce moment, en fait, où ton dessin, en fait, disparaît. Tu viens le rechercher. Et le dessin n'est plus là, en fait. Tu voulais le récupérer. Et qu'est-ce qui arrive au dessin?
Eh ben, elle a demandé à être enterrée avec.
Voilà.
C'est, mais même moi, encore aujourd'hui, quand j'en parle, je trouve ça fou. Et, j'étais mort de gêne dans cette chambre quand les filles de cette patiente m'ont appris ça. Parce que je pouvais pas m'empêcher de me questionner sur ma légitimité et ma place, en fait. Et c'était accueilli avec énormément de bienveillance et totalement accepté par les enfants de Nani.
C'était une évidence pour eux, en fait.
Ben, en fait, du jour où elle m'a adopté comme symboliquement, hein, comme petit-fils, ben, ils m'ont adopté comme un des leurs, quoi. Et ils m'ont dit, voilà, vous faites partie de notre famille. Et...
Ouais, c'est fou.
C'est, comment dire, moi, je trouvais ça mignon. J'ai joué le jeu parce que ça me plaisait, parce que j'y voyais du sens et parce que cette patiente aussi voyait du sens, y trouvait du sens. Mais j'avais pas conscience que c'était aussi, comment dire, aussi fort pour elle. Je pensais que ce n'était que de l'humour, mais en fait, je me rends compte que finalement. Pas tant que ça, parce que même moi, à la fin de l'histoire, je veux récupérer ce dessin parce que je veux récupérer un souvenir d'elle.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, ce qui est assez joli, c'est que quelques mois après la sortie d'À la vie, en dédicace, les petits-enfants de Nani sont venus me retrouver. Et en fait, ils avaient pris une photo de ce dessin quand il était affiché à son téléviseur. Et donc, ils m'ont imprimé la photo du dessin que, du coup, j'ai pu garder chez moi. Et ils m'ont aussi donné un selfie qu'on avait pris Nani et moi, et je m'en souvenais même pas, mais pendant elle était très moderne pour une petite mamie Nani. Et donc, ouais, en cours d'hospitalisation, elle m'a dit venez on fait un selfie, et j'avais complètement oublié ça, et donc ouais, j'ai ces deux souvenirs précieusement chez moi qui racontent notre histoire, quoi. Et ouais, c'est une rencontre tellement forte, hein. Quand tu lis cette histoire, tu te rends compte que c'est un truc que je peux pas garder pour moi, en fait. Mmh. Mmh.
Mais justement, donc tu nous dis, donc t'es biberonné à la bande dessinée, t'aimes le dessin, tu vis ces histoires, t'as envie de les partager. Dans l'intégrale, on voit à la fin aussi un petit peu tes premiers dessins aussi par rapport à l'homme étoilé. Mais je me demandais, par exemple, tu me parles de Mathilde qui est un peu le point de départ de toute cette histoire. Mais je pense que ton premier dessin de l'homme étoilé, c'était en 2012, quelque chose comme ça. Mmh. Est-ce que t'avais déjà commencé à... Est-ce que tu avais commencé à te dessiner en 2012, mais pas encore les BD, ou est-ce qu'il y avait eu des premières versions de ce qu'on voit là dans la bande dessinée, ou...
Mathilde, il y avait une toute première version. Alors, je pense que Mathilde, on est en 2011 ou 2012, hein, quand je l'ai rencontrée. Et donc c'est vrai, c'est la première histoire que j'ai posée sur le papier, mais je savais pas trop quoi en faire, je savais pas...
Ça ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui.
Non, du tout, non.
Ok.
Et je l'ai laissé se reposer un long moment, et en fait la plupart des histoires d'À la vie, et surtout Je serai là, puisque Je serai là, c'est vraiment ce chemin, en fait, de mon entrée dans cette école d'infirmière jusqu'à ma prise de poste en soins palliatifs.
Ouais, ouais.
Mais la plupart de ces histoires sont assez vieilles, en fait. Ouais. Certaines ont plus de 10 ans, et je pense que c'est le temps qui m'a fallu pour les digérer et pour en extraire vraiment l'essence et le message. Et souvent on me demande d'ailleurs s'il y aura un troisième tome des aventures de l'homme étoilé, et j'ai encore quelques histoires en stock, mais je pense que je les ai pas encore suffisamment digérées pour véritablement en extraire l'essence, le message que je veux diffuser, et donc j'ai besoin de les laisser dormir encore un petit peu pour...
Ouais, parce que c'est une histoire de flow, en fait, en anglais.
C'est ça, ouais. Monsieur est bilingue.
Là, je parle pas flamand.
Mais oui, c'est vrai que quand on lit ton travail, on a ce sentiment d'instantanéité. Et tu viens de dire, là, il y a des récits qui ont 10 ans, où il y a plusieurs patients qui sont... Il y a des patients dans ta bande dessinée qui représentent plusieurs patients. Et donc, c'est un vrai travail de maturation. Nous, on a l'impression, parce que l'autobiographie, il y a de plus en plus d'auteurs qui le font aussi. On a cette impression que tu as vécu ça dans ta semaine et que tu... tu le dessines le soir et puis mais en fait
ouais, c'était fait d'Instagram
enfin, non quoi aujourd'hui Instagram, aujourd'hui aujourd'hui oui
ça arrive il y a quelques histoires que t'écris comme ça
dans les histoires longues effectivement il y a beaucoup d'histoires qui sont assez anciennes je crois que les histoires les plus récentes c'était celles de Nanny et Christine
tu les avais toutes dessinées les histoires ou alors t'as été puisé dans ta mémoire comment ça s'est passé parce que celle de Mathilde tu l'avais déjà dessinée écrite mais est-ce que c'est le cas de toutes les histoires
non du tout avant d'écrire à la vie, j'avais déjà publié 4 histoires sur Instagram. Celle de Mathilde et de Blanche, je les ai entièrement retravaillées pour à la vie. J'avais publié celle de Christine et Nanny. Christine et Nanny, je les ai publiées assez rapidement, en fait. C'est les histoires les plus récentes, on va dire, de toutes les histoires que j'ai partagées. Mais elles étaient tellement fortes, en fait, que... comment dire, leur sens et leur message c'est imposé à moi très facilement. Puis après, il y a des souvenirs qui me sont revenus, même parfois au décours d'échanges avec des lecteurs sur Instagram. Je me souviens que l'histoire de Paulette, notamment, ça m'est revenu suite à une story où j'avais parlé d'un tatouage, ou je sais pas trop.
L'histoire de Paulette.
Alors, l'histoire de Paulette, c'est la toute première histoire de Je serai là, et c'est la toute première patiente que j'ai soignée à l'hôpital. C'était cette petite dame qui ne m'adressait pas la parole, elle ne m'a pas dit un mot de quasiment du coup toute son hospitalisation. Et pour moi, jeune élève infirmier, c'était horriblement frustrant quoi,
ouais,
parce que
un mur dans
c'est ça,
tu voulais créer du lien.
C'est ça, tu franchis les portes de l'hôpital,
chaud,
tu veux mener de
ton ambition dans
voilà, c'est ça, de triomphant de victoire sur la maladie et ouais, tu veux créer du lien avec tes patients et là il se passe rien, mais
nada.
Même pas un bonjour quoi. Et un jour en fait, et tu sais souvent les gens me disent waouh, c'est brillant d'en être arrivé à cette conclusion, mais sur le moment même ça m'est pas apparu comme une évidence et véritablement je l'ai juste fait parce que cette situation m'emmerdait. Je me suis dit si tu veux pas parler c'est pas grave, je vais combler l'espace sonore, je vais parler mais à n'en plus finir et je vais parler pour deux quoi. Mais c'était vraiment de la frustration et de la colère quoi. Et je lui raconte en fait les prémices de ma relation amoureuse hein, puisque j'allais rencontrer ma compagne pour la première fois. Et en fait, juste avant le week-end, le lundi, je reviens à l'hôpital, alors des étoiles plein les yeux, parce que j'ai passé un merveilleux week-end avec elle, les premiers mots qu'elle m'adresse de cette hospitalisation, c'est « Et alors ?»
Alors ?»
Comment ça s'est passé ?»
Ah, l'amour.
C'est ça, mais tu vois, j'ai pas compris ça sur le moment même, en fait. Moi, j'ai vécu ça, sur le moment, on était dans l'instant, j'ai pas décodé hein, ce qui était en train de se passer. Et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'avait offert ma première leçon en tant que soignant.
Écoute.
C'est ça, c'était une manière de me dire, je suis pas juste une collection de symptômes, je suis pas juste une personne qui souffre ou pas, qui chie ou pas, qui est, tu vois. Et je suis pas juste une tension, des pulsations, une température, je suis un être humain avec des besoins, des envies.
Partager aussi l'histoire des autres, en fait.
Et là, je suis enfermé dans les murs de l'hôpital où tout est blanc, où la bouffe est dégueu, et j'ai envie de savoir ce qui se passe au dehors, j'ai envie qu'on me rappelle qu'il y a de la vie au dehors, qu'il y a de l'amour, qu'il y a... Et elle a véritablement vibré, tu vois, au son des prémices de cette relation amoureuse que je lui ai partagée jour après jour. Je lui montrais des photos, je lui montrais les SMS qu'on s'échangeait.
Ouais, tu m'étonnes.
Et ça a été génial pour elle. Et je pense que ça l'a, je vais pas dire soignée, mais en tout cas ça lui a fait du bien. Et c'était le plus important. C'est ce qui comptait. Je crois que de mémoire, elle avait un cancer pulmonaire, cette petite dame. Et elle était en soins palliatifs, elle était dans le service de pneumologie, mais elle était, elle était plus dans le curatif, quoi. On pouvait plus la guérir de ce cancer. Donc elle savait qu'elle s'en sortirait pas. Pour autant, elle n'était pas en fin de vie imminente. Mais je pense que justement, dans ces moments très compliqués, elle avait envie d'autre chose que d'être considérée comme juste une maladie dans un lit, quoi. Et c'est terrible parce que tu t'en rends compte quand t'es étudiant que j'ai fait des stages... où j'entendais des soignants nommer les patients par leur maladie et non pas par leur nom. Tu vois, on disait,
c'est horrible.
Le pancréas de la 62 ou et non, putain, le pancréas de la 62, il a un nom, c'est une personne, c'est
clair. Et il y a d'autres patients ou patientes aussi que tu as réussi à faire parler grâce à la musique. Je pense notamment, j'oublie son prénom, mais
Rémi.
Tu lui as fait écouter du Jacques Brel. Genre,
c'était Blanche, ouais.
Voilà Blanche, ouais. C'est la même personne dont on parlait juste avant. Non, c'était pas la même personne.
C'est celle qui m'a nommé le mec.
Non, je sais, non, mais
c'est pour moi.
Ouais, mais Blanche, c'est vraiment genre mutisme aussi. Et puis après, à la fin de cette histoire que tu racontes, c'est L'homme étoilé où Xavier m'a mis du Brel, quoi.
Bah, elle était pas vraiment mutique, mais disons qu'elle était un petit peu, elle était triste. Elle était triste parce que elle avait plus de 80 ans. Et elle était aussi atteinte d'une maladie incurable. Elle venait dans notre service en sachant qu'elle y mourrait. Et tu sais, elle était dans cette phase un peu compliquée de la maladie où elle sait que, comment dire, que c'est une morte en sursis, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que physiquement, elle était plutôt bien. Elle souffrait pas. Elle mangeait peu, mais enfin, son état était plutôt stationnaire, on va dire. Et c'est horrible parce que du coup, elle était là dans ce lit à attendre que la mort arrive. Et moi, j'arrivais pas en fait à trouver voilà le chemin, la corde à faire vibrer pour lui apporter quelque chose d'autre. Et à cette époque-là, je travaillais beaucoup plus en musique parce qu'on avait des postes de radio sur lesquels je pouvais brancher mon iPod. Et comme on en parlait tout à l'heure, je suis assez éclectique. Donc,
ça remonte.
Ouais, moi, j'aime pas écouter la musique sur mon portable.
T'as étudié un petit peu la musicothérapie?
Non, du tout.
Pour ta formation, pas
non,
du tout.
Non, c'est assez différent.
Ça t'est venu comme ça, en fait. C'est quelque chose qui t'est venu vraiment.
Ouais, c'était juste une
formation. Bah, quitte à meubler, autant mettre de la musique. Si on veut pas parler.
Bah là, c'était même pas. C'est à l'époque où je soignais Roger aussi, hein, le patient avec lequel on écoutait Queen et les Guns. Et c'est juste que je m'étais rendu compte que la musique.
Welcome to the jungle.
La musique, ça. Bah, c'est de la vie, en fait, tout simplement. Et je me rendais compte que ça. Ça avait voilà vocation à apporter du plaisir, de la vie, et donc j'en proposais spontanément à chacun de mes patients. C'était le cas de Blanche, et Blanche acceptait tout en fait, mais sans beaucoup de conviction. Et donc je lui mets des musiques que je pense une petite dame de son âge peut apprécier, quoi. Je lui mettais des musiques de films, des trucs un peu passe-partout, un peu de variété, de la musique classique. Mais je sentais que ça la traversait, elle en avait rien à faire en fait. Et du coup, c'est même avec ses musiques, ces moments avec elle étaient d'un silence assourdissant, quoi. Et au cinquième jour, en fait, au cinquième matin de soins, j'en peux plus non plus, quoi. Je me dis c'est pas possible. Moi, j'essaie d'apporter quelque chose et j'ai l'impression qu'elle le subit. Et donc je la supplie, en
horrible,
fait.
Ouais.
C'est ça, je la supplie de me dire. Je lui dis, au pire, on n'en écoute même pas de la musique, on peut causer si vous voulez, mais non, pas tellement envie. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on met? Oh, ce que vous voulez, mais non, mais moi quand je...
Allez, Skyrock.
C'est ça. Et donc, à force d'insistance, elle finit par me dire Brel du bout des lèvres, et je suis tellement content qu'elle m'ouvre cette micro-porte que je m'engouffre dedans et je lui mets du Brel et je danse sur Brel et je chante sur Brel avec elle. Je me souviens que j'avais pris son pied à perf avec sa perfusion en guise de micro, et je la fais rire, en fait. Et c'est une telle victoire parce que au bout de 5 jours, à trouver cette dame si triste dans son lit, lui décrocher un rire, tu le vis vraiment comme un accomplissement, quoi.
Bien sûr.
Et je sors de cette chambre ça s'arrête là, et le lendemain, je croise sa fille dans les couloirs que j'avais jamais vue avant. Elle passe à côté de moi, elle voit mes étoiles sur mon bras, et elle me dit « Ah, c'est vous alors ?» Je la regarde un peu interloquée, elle me dit « Hier, quand je suis rentré dans la chambre de ma maman, je l'ai vue sourire pour la première fois depuis très longtemps, et quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit « C'est l'homme étoilé qui m'a mis du
mal. » C'est de là que ça vient, ouais.
Et voilà, c'était...
Et donc, tu fais vraiment des concerts, tu fais un peu le cirque dans la chambre. C'est l'impression qu'on a quand on lit la BD. Et c'est vrai que c'est hyper, c'est une bouffée d'oxygène quand on lit la bande dessinée. On a parfois du mal à imaginer que ça peut se passer dans un hôpital en soins palliatifs, mais
ouais,
tu fais des solos de guitare,
film,
de fausses
en fait,
guitares
voilà.
Dans les chambres, bah, tu fais du Queen.
Il faut garder à l'esprit que c'est des parenthèses, tout ça. C'est pas comme ça tous les jours. Et c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est qu'il y a des jours où il se passe rien, il y a des semaines où il se passe rien, il y a des rencontres dans lesquelles voilà, je le disais, mon taf, c'est un peu un taf d'enquêteur. J'essaie de comprendre qui je soigne, mais je ne noue pas des liens particuliers avec chacun de mes patients.
Ah, bien sûr.
Ouais. Quelque part, tant mieux. C'est un juste équilibre, en fait.
Et puis, sinon, tu serais le rigolo de service, en fait.
Bah, et puis, je pense que ce serait très
aller voir l'homme étoilé, quoi.
C'est ça. Mmh. Mais en fait, tu sais, c'est un peu comment dire, l'étiquette que je porte malgré moi aujourd'hui, c'est que vu qu'à la vie a offert une, comment dire, j'étais bien médiatisé quand la vie est sortie. Y a pas mal de familles aujourd'hui qui me reconnaissent et je sens parfois dans leur regard, ou alors c'est peut-être parce que je suis un peu parano, mais je sens dans leur regard que ça crée une attente.
Une attente, ouais, voilà.
Et
quel genre d'attente?
Bah,
de retrouver en fait
quelle histoire formidable vous allez vivre avec mon père ou ma mère ou tu vois.
Ah, est-ce que vous allez en faire une BD?
Ce
ou
qui est terrible puisque voilà, on est quand même face à la maladie et finalement un diagnostic qui est souvent terrible, quoi.
Bah, c'est surtout que
cette attente est un petit peu étrange.
Tout ça c'est très spontané. Moi je calcule pas en fait, je rentre dans la chambre de mon patient, j'apprends à le connaître, je vois où
tu fais déjà ton travail en premier, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais.
Où je peux aller et je vois voilà ce qu'on va broder autour de cette relation de soins ou pas. Et d'ailleurs très souvent il se passe rien en fait, faut rester humble par rapport à ça. Moi il y a beaucoup de soignants avec lesquels je travaille et beaucoup de patients que je soigne où voilà, on restera jamais rien d'autre qu'un soignant et un soigné, et c'est pas grave, c'est ok aussi. Et puis après il y a ces patients avec lesquels il se passe quelque chose de plus, et c'est tous ces patients que je raconte à travers ces histoires. Et mais du coup c'est vrai que ça crée une forme d'attente qui me met un petit peu en difficulté parce que j'ai pas ni l'envie ni la prétention d'être un super infirmier, d'être meilleur que les autres et d'avoir quelque chose de plus à offrir en fait. C'est juste je sais pas, un moment où les étoiles s'alignent, tu vois, et où tu dis putain, c'est là que je dois aller.
Ouais,
bien sûr, je sais que si je lui offre ça, il va se passer quelque chose, quoi.
Et comment tu gères cette pression? Parce que avant t'avais pas sorti de BD, t'étais peut-être moins connu sur Instagram et compagnie.
On va dire il y a trois ans, voilà, t'avais pas ce succès en fait. Ou c'était déjà présent sur Instagram.
Parce que t'as commencé sur Instagram.
J'ai commencé à publier mes histoires en 2017 sur Instagram. Alors le succès a été croissant, mais c'est vraiment quand la vie est sortie,
ouais, voilà,
et avec la médiatisation, on va dire de la vie, que
comment tu gères ce grand écart?
Bah pas bien en fait. Pas bien parce que je me rends compte que l'homme étoilé, moi c'était juste un petit nom qu'on m'a donné. C'est juste le petit nom qu'une
c'était
patiente
m'a donné. C'était pas ton pseudo d'auteur de BD au départ, quoi.
Mais c'est juste le petit nom qu'une patiente m'a donné parce qu'elle savait pas comment je m'appelais en fait, tu vois. Et c'est pas une étiquette de super-héros, et c'est vrai que parfois j'ai pu le peut-être le présenter comme ça, mais aujourd'hui je suis toujours très mal à l'aise quand on me parle comme ça justement. Je encore ce matin, je
disais, t'es pas l'homme étoilé, tu es Xavier. Déjà.
Ouais. Mais encore ce matin, je lisais un message d'une élève infirmière qui me disait "Waouh, vous êtes mon modèle, je veux être comme vous plus tard." Mmh. Mais je ne me vois pas comme un modèle en fait. Je suis pas un meilleur infirmier que les autres, je suis juste un mec en fait qui un jour a pris la plume pour raconter ses rencontres avec ses patients et montrer la manière dont j'investis la relation.
Ouais, bien sûr.
Parmi les 20 soignants de mon service, si les 20 soignants de mon service prenaient la plume, ils pourraient te pondre autant d'histoires que moi.
Exactement, c'est ça le truc. En fait, c'est que toi, à un moment, t'as décidé de le raconter et d'en faire des bandes dessinées et de les diffuser sur Instagram.
Et le but, c'était pas de faire de mon personnage un super infirmier en fait, mais juste un mec humble et à sa place qui fait des rencontres. De belles rencontres, et de montrer aussi à quel point l'autre, le patient, peut non seulement te marquer, mais aussi te faire grandir en tant que soignant et en tant qu'être humain, tu vois. Et voilà.
Allô, allô, ici le Patate Club.
Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît.
Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous.
Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
Ça nous aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout.
Allez, retour à l'épisode.
Parce que quelque chose qu'on dit souvent sur Sens Créatif, c'est que tout le monde a une histoire à raconter en fait. Mmh. Après, il faut vouloir la raconter et savoir la mettre
Oui, puis
la mettre en forme.
On dit souvent que les choses où tu te dis non, non, pas par là, ou ça, ça n'intéresse personne, ou ça, j'ai trop honte, c'est souvent... genre, c'est de ça dont il faut parler.
Ben, je l'avais posté sur Instagram. Hein. Je me souviens que j'en avais parlé avec un copain avant toute cette aventure. Je l'avais partagé, voilà, ce souhait de raconter mes rencontres à l'hôpital. Et il m'avait dit, mais ça marchera pas. C'est trop anxiogène.
Puis il était pas visionnaire.
Puis il m'a dit, puis t'as 30 ans, mec, c'est trop tard pour faire de la BD. Et je me souviens que je l'ai pris comme un affront. Et je me suis dit, bah, je vais te prouver que t'as tort, en fait.
Tu vas voir. Non, mais c'est une histoire hyper commune, ça.
Oui, non, c'est vraiment génial ce que tu dis, parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on voit souvent avec les personnes, justement, qu'on côtoie chez les illustrateurs, illustratrices, auteurs de bande dessinée. Et à un moment, ils se retrouvent face à un mur, tu vois, et l'impossibilité de faire quelque chose. En fait, faut se donner la permission d'eux et y aller, quoi.
Puis t'as ce petit moment, tu sais, un peu comme quand tu sautes en parachute. Alors, j'ai jamais sauté en parachute, mais l'idée me
parle. Oui, il y a un vertige.
C'est le moment, en fait, où tu sais pas. Et moi, j'avais toutes ces histoires qui dormaient comme ça dans un tiroir, et j'avais envie de les exploiter. Je savais pas comment faire. J'avais peur que ce soit anxiogène. Je partageais juste des petits récits de vie, des petites anecdotes du quotidien avec ma compagne qui avait leur petit succès aussi. Mmh. Ça faisait beaucoup rire mes abonnés. Mais j'avais envie de rediriger mon lectorat vers ces histoires, et je me suis dit, waouh, le grand écart est quand même assez fameux entre mes anecdotes de soins palliatifs et mon quotidien avec
finalement,
ma compagne.
Finalement, t'as pas fait un grand écart, t'as fait un pont.
C'est ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, arrête de te poser la question, fais-le, de toute façon, ça coûte rien, quoi. J'étais pas non plus une star sur Instagram, donc... Et c'est ce moment, tu sais, où t'as ce petit boost d'adrénaline et tu te dis, allez, c'est bon, j'y vais, je m'en fous. Et donc j'ai publié l'histoire de Blanche et puis celle de Mathilde, etc., etc. Et en fait, c'est avec les histoires de Marie et de Christine qui a vraiment eu un gros boom et que.
Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, ces histoires?
Je sais pas si elles avaient quelque chose de spécial, mais. En tout cas, elles ont été fortement appréciées et puis du coup partagées. Et puis tu sais, il y a un effet boule de neige, quoi. Mm-hmm. Elles ont été énormément.
Il y a toujours un moment où c'est plus
oui,
partagé que
l'accumulation aussi. Tes abonnés commencent à avoir l'habitude de suivre tes histoires. Et puis après, il y a celle-là qui peut-être pour une raison ou une autre pop un peu plus.
Et oui, ça, c'est
l'histoire de Marie, c'est une histoire qui. Bon, après, elles me sont toutes chères, hein, mais. Elle avait une saveur particulière parce que justement, j'arrivais déjà à ce moment où je me prenais souvent cette idée que j'étais un super infirmier, un modèle, et je n'aime pas cette idée. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer aux gens que non, je suis pas un super infirmier, je suis juste un infirmier parmi tant d'autres, et j'ai aussi mes failles et mes faiblesses. Et l'histoire de Marie, c'est ça qu'elle raconte, en fait. C'est que cette patiente, elle m'insupportait au plus haut point quand je l'ai rencontrée, et je n'arrivais pas à créer du lien avec elle, alors que elle avait une forte envie, justement, de créer du lien avec moi.
Ah oui, en effet, ouais.
Et je l'ai raconté vraiment avec beaucoup d'humilité pour montrer aux gens, voilà, regarde ce que ton super infirmier il a fait, tu vois. Et en plus c'est un très beau turnover cette histoire parce que finalement elle termine par cette sédation que j'ai envisagée de manière très poétique, hein, cette espèce de voyage dans le ciel.
C'est magnifique.
Et véritablement à son chevet, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et c'est comme ça que j'aimais, c'est comme ça que j'aime d'ailleurs lors des soins, parce que la sédation c'est véritablement un soin à mon sens. Le présenter à mes patients, c'est ce voyage qu'on ferme les yeux et où est-ce que vous m'emmenez maintenant. Et je pense que ouais, peut-être que ça a eu quelque chose aussi de très rassurant sur cette angoisse de la sédation, c'est aussi ce, comment dire, on va peut-être pas aborder ce sujet-là, mais parce que c'est très chiant, mais ce sentiment en France, en fait, que ne pas légiférer sur l'euthanasie, c'est une erreur et qu'on est en retard et ceci et cela, alors qu'à mon sens, la loi française est très bien faite et elle offre toutes les conditions favorables à une fin de vie apaisée, sereine et optimale, quoi.
Oui, j'ai vu en interview que de temps en temps les journalistes essayaient de t'amener sur ce sujet-là.
Oui, bah parce que j'imagine qu'aussi ça va être un des axes peut-être de la, je sais pas moi, de la future élection
campagne
présidentielle.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et en parlant de ta page médiatique, tu racontes justement dans l'histoire inédite avec Rémi que bah en fait tout s'est passé en même temps. C'est-à-dire que ta première bande dessinée sort. Les médias s'y intéressent, t'es beaucoup invité sur des plateaux, par des médias, etc. Tu deviens papa, ta chérie, ta compagne passe par une dépression. Ça fait beaucoup en même temps. Comment t'as vécu ce... Oui, c'est vraiment le boxon, quoi.
C'est le bon mot, ouais. Mais c'était très compliqué de gérer tout ça de front parce que, en l'espace de quelques mois, j'apprends à devenir père et quand t'es papa, ben, tu le sais comme moi, ça devient la priorité numéro un de ta vie, en fait. Tout devient accessoire. Et donc ouais, j'ai à cœur d'être un bon père pour mon enfant, de rester un bon compagnon pour ma compagne que je vois s'enfoncer, et en parallèle, ben je vis ce rêve éveillé, quoi, ce rêve de gosse de pouvoir diffuser mon travail, de pouvoir le promouvoir sur les plateaux télé parisiens et avec de très belles opportunités, et après tout en restant infirmier à temps plein à l'hôpital, et ça a été
ouais, vertigineux.
Ouais, ça a été très compliqué à gérer, ouais. Et d'autant que je j'arrive pas trop à m'arrêter, donc j'avais à peine mis à la vie en librairie que j'avais déjà signé pour Je serai là, et que j'étais déjà en train de bosser dessus. Et ce que je voulais raconter à travers cette histoire avec Rémi, surtout, c'est que c'est la manière dont ce patient a accompagné tous ces moments compliqués avec énormément de bienveillance, et à quel point finalement. Tu sais, à l'école d'inf, il y a un truc avec lequel on te rabâche en permanence, c'est cette espèce de distance que tu dois mettre entre les patients et toi. Et je comprends l'idée, hein, je ne nie pas l'importance, en fait, de ne pas se laisser bouffer par la relation avec le patient.
Oui, ça peut être dangereux.
Voilà, mais je suis pas convaincu non plus qu'il faille envisager la relation à l'autre sous l'angle de la distance que tu dois mettre avec lui pour t'en protéger.
Des fois, ça arrive, en fait. Et il faut juste pouvoir l'accepter et l'accueillir, en fait, la relation.
Disons que, ouais, c'est ça. Et puis, si tu ne nourris pas la relation avec le patient, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le travail avec l'humain, tu vois. Si t'as pas envie d'être touché par l'autre, si t'as pas envie de vivre de belles histoires, et de belles aventures humaines, taffe pas dans un milieu où avec l'humain, quoi. Et Rémi, c'est véritablement un patient que je me plais à considérer comme un ami. Et c'est quelqu'un qui, voilà, a entouré la sortie de la vie d'une manière très particulière. Il a donné cette interview pour Le Parisien, il en était fier comme tout. C'est avec lui l'anecdote de notre rencontre que j'ai annoncé la sortie de la vie sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, il m'a suivi un peu comme un coach, un peu comme un papa et tout ça pendant toute cette promo. Tandis que moi, justement, je continue de l'accompagner comme un soignant dans les moments délicats de la maladie.
Et il t'a renvoyé, en fait.
En fait, ça a été un échange mutuel, et c'est vraiment quelqu'un que je porte haut dans mon cœur, et aujourd'hui je suis encore en contact avec deux de ses filles, et je sens que c'est un lien qui est important pour moi, même si on se parle pas très souvent, mais de temps en temps on s'envoie un petit message. C'est important parce que pour moi c'est une manière de continuer à le faire vivre dans ma mémoire, en fait. Et je pense que c'est sain, tu vois, je pense que c'est juste, voilà, montrer à quel point ces personnes peuvent être plus que de simples patients. C'est des personnes qui traversent ta vie et laissent un peu d'elles derrière elles, quoi, dans ta vie. Et moi, j'ai envie de garder ce souvenir, j'ai envie de le porter en moi, j'ai envie de me rappeler que ça fait partie des beaux moments que j'ai vécu. C'est pas juste du travail, quoi. C'est pas juste poser une paire, donner un médicament, et c'est rencontrer des gens et t'imprégner de tout ce qu'ils peuvent t'apporter, quoi.
Ouais. Eh ben, je t'ai mentionné ça avant qu'on enregistre, mais j'ai dit que ma maman, elle était bénévole en soins palliatifs, donc c'est un univers que je connais un petit peu à travers elle, même si je l'ai jamais accompagnée. Du coup, je lui ai offert Je serai là, donc évidemment, elle a été énormément touchée, etc. Et avant de venir te rencontrer, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais poser une question à Xavier? Et voilà, et il m'a dit oui, donc je vais te poser sa question. Qui suit un petit peu ce dont on est en train de parler entre le parce que voilà, ma maman, elle est pas infirmière, mais elle côtoie toutes ces histoires avec ces personnes qu'elle rencontre pour un petit bout de chemin, et voilà, cette histoire de s'impliquer émotionnellement, c'est bon, donc je te pose la question qui est quel conseil me donneriez-vous en tant que visiteuse et non en tant que soignante?
Mais j'aime pas donner des conseils, en fait. Okay. Je pense que justement, au quotidien, j'essaye de m'abstenir de donner des conseils.
Mais peut-être qu'au-delà du conseil, peut-être simplement de quelle manière on peut aborder la visite en fait en soins palliatifs quand on vient voir ses proches
professionnels.
Je pense que l'important c'est justement d'accueillir et je pense que le bon taf d'un bénévole en soins palliatifs c'est ça, c'est de rentrer dans une chambre et de voir comment il est attendu, comment il est accueilli et de simplement se laisser porter par la rencontre et parce que c'est cette rencontre qui va définir le chemin qu'on va emprunter à deux ou pas. Il y a des patients qui sont pas du tout ouverts à l'idée de recevoir un bénévole ou une bénévole dans leur chambre, d'autres qui au contraire sont très preneurs de l'idée et de la même manière moi en tant que soignant ben, dans une chambre c'est pareil en fait, il y a des patients qui m'accueillent à bras ouverts et puis d'autres okay, posez votre perf et puis vous pouvez disposer. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner si ce n'est de se laisser porter en fait de peut-être, ouais, comme j'essaie de l'illustrer dans l'histoire de Paulette, de pas oublier que derrière la maladie, toutes ces personnes sont des êtres humains avec des désirs, des besoins, des envies, des aspirations, des rêves, certains réalisés, d'autres pas. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier, de les considérer avant tout comme des êtres humains plutôt que comme des malades. Voilà. Souvent, tu sais, tu le lis dans la littérature, hein, le malade, les malades, tout ça, c'est pas que des gens malades en fait, c'est juste des êtres humains comme toi et moi. Et c'est dommage que du jour au lendemain, quand malheureusement t'es porteur d'un cancer ou de n'importe quelle autre maladie, tu passes du statut d'humain au statut de malade.
Ouais, c'est chaud.
Ouais. Bah, merci. Étiquette, délicate.
Merci pour elle.
Et ben on peut enchaîner sur quelque chose qui absolument n'a rien à voir. On va rester sur les personnages en fait, parce que dans tes bandes dessinées, donc tu fais de l'autobiographie en tout cas sur ces deux BD. Il y a un personnage, c'est toi-même. Tu t'es mis en scène. Tu te définis comme un marshmallow qui est coincé dans une armoire à glace. D'ailleurs, t'aimes pas trop quand il y a des gens qui sont plus grands que toi. Tu le disais tout à l'heure, ton midi.
Il se cache là.
Il se cache midi.
7 cm de trop.
Tu t'as une undercut scandinave, on va dire, une coupe de viking. T'as les t-shirts de rock, t'as les tatouages. Quand tes patients te voient débarquer pour la première fois, qu'est-ce qu'ils te disent et comment ils réagissent en fait?
Généralement, ils me disent rien. Parce que je pense que j'ai...
Oh non, pitié.
Mais en fait, c'est ça. C'est une chance, finalement. C'est que j'ai la carrure qui va avec et qui fait que, généralement, les gens n'osent pas me dire quelque chose. Parce qu'ils se laissent le temps de comprendre un peu ce qui leur arrive et de...
Il y a une erreur.
Mais c'est ça. Mais je pense que peut-être que si j'étais un peu plus frêle, je me serais pris plus de remarques ou de réflexions. Aujourd'hui, franchement, en 12 ans de carrière... Une personne m'a fait une réflexion assez désagréable au sujet de mon look. Sinon, de manière générale, je le vois. Hein, ce que je disais, je suis très attentif au non-verbal, au regard des gens, et je le vois que certaines personnes me regardent un petit peu étonnées. Mais quelque part, ma carrure joue en ma faveur, parce que donc effectivement, ils n'osent rien me dire. Et puis, ils se laissent le temps de la rencontre. Et quand ils se rendent compte que finalement, je suis pas plus méchant qu'un autre, et que même souvent, je suis plutôt très gentil... L'appréhension a laissé place à une certaine forme de curiosité, et souvent ce look, ces tatouages en l'occurrence, c'est une porte d'entrée en fait pour faire connaissance. C'est souvent les premières questions qu'on me pose en fait, pourquoi des étoiles, pourquoi Joseph Marie,
vous les avez faites où,
c'est ça. Et donc, il y a juste une patiente un jour, j'aime bien m'en souvenir, je trouvais ça très drôle, c'était dans un service de chirurgie digestive à Bruxelles. Je rentre dans sa chambre avec mes tatouages, mes cheveux beaucoup plus longs, mes anneaux dans les oreilles, et elle me regarde, on se connaît pas, hein, on se connaît depuis quelques minutes, et elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Je dis « Mais de quoi vous parlez ?»« Mais ça, tout ça, là, les tatouages, les cheveux longs, on dit « Mais ça vous va pas du tout ?» Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, mais parce que vous avez une tête de bisounours, ça vous va pas? Et voilà. Et Marshmallow dans une armoire à glace, c'était une psychologue du premier service de soins palliatifs dans lequel j'ai bossé qui m'avait qualifié comme ça. Et je trouvais que ça me résumait assez bien, en fait, parce que c'est vrai que sous ma carrure, mes tatouages, mon look un peu, on va dire atypique pour l'hôpital, dans le fond, je suis une petite guimauve, quoi, donc,
Mais souvent, est-ce que, si je peux faire une caricature, est-ce que les métalleux, par exemple, ne sont pas un peu tous des guimauves.
La plupart que je connais le sont.
Bah voilà, moi aussi. Donc
après je me considère pas comme un métalleux, j'ai juste le look.
La caricature, voilà, hein, tu vois.
Que je voulais avoir depuis que je suis gosse en fait. Ouais. Moi je fantasmais sur des Axl Rose avec des tatouages partout, ouais, des longs cheveux et tout ça.
Et ça réussit.
Et voilà.
Non, mais je dis ça dans le sens où moi je me considère pas forcément comme un métalleux non plus, mais on en parlait dans la voiture pour venir. Moi j'écoute des musiques dites musclées ou voire extrêmes pour certaines personnes, comme du hardcore ou du punk ou un peu de métal ou des trucs comme ça. Et je me souviens que j'avais quelques amis comme ça qui disaient mais ça fit pas avec comment, enfin, je pouvais autant écouter les Beach Boys que je pouvais écouter Converge juste après. Et j'avais un oncle comme ça qui était genre mais comment c'est possible de passer de l'un à l'autre. Et mais moi je sais que personnellement pour moi c'est un défouloir incroyable quand je vais à des concerts de hardcore, quand j'en sors. Ma femme me dit vivant, mais elle me dit tout le temps, tu sais, j'arrive, je suis tout dégoulinant, je rigole comme un gogol, et t'as un halo de lumière autour de toi, t'es tout bien. Et je me demandais si pour toi, est-ce que les musiques dites extrêmes, c'est aussi une sorte de catharsis, notamment parce que j'imagine que tu côtoies des histoires peut-être pas très, enfin des histoires douloureuses aussi.
Moi, je pense que la musique, elle accompagne ce que tu ressens à l'intérieur de toi, en fait. Et je peux pas nier que voilà, sous le côté très lumineux d'Homme étoilé en BD, je suis quelqu'un de parfois en colère, même souvent. J'ai aussi mes petits côtés un peu sombres. J'ai aussi mes côtés un peu tristes. Et donc j'écoute la musique qui accompagne le mieux ça. Mmh. J'écoute très peu de choses gaies en fait en général, hein. De choses joyeuses en dehors de Queen. Et encore Queen, quand t'écoutes la discographie, il y a beaucoup de trucs qui sonnent très, je vais pas dire mélancoliques, mais je pense qu'effectivement, en tout cas dans les musiques extrêmes, c'est peut-être ce qui permet d'évacuer parfois un trop plein de colère, de frustration, et puis de revenir à la vie normale avec un peu plus de disponibilité.
J'imagine quand tu rentres le soir, que tu reviens en voiture, tu t'envoies des playlists en fonction de
vraiment de tout
du ressenti.
Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de métal extrême, à l'adolescence. Et tu sais, il y a une espèce de crescendo comme ça dans le métal, hein. C'est que tu t'entres par la petite porte.
Linkin Park, le néo-métal.
Ben c'est ça, tu passes par le néo-métal. Avant, j'avais écouté Nirvana et des trucs comme ça. Et puis en fait, il y a un moment où quand t'as goûté à cette espèce de violence musicale, t'en veux toujours plus. Ouais. En fait. Et
le death, le black.
Exactement. Et au bout d'un moment, bah t'as un petit peu fait le tour du truc. Et après, tu reviens à... Aujourd'hui, j'écoute toujours du métal, mais j'en écoute moins.
Oui.
Et j'écoute beaucoup plus de rock en fait, et j'écoute énormément de trucs assez éthérés, assez calmes. J'écoute énormément de Catatonia, par exemple. Alors c'était un groupe de death metal à la base, qui a viré en espèce de rock un peu mélancolique.
Il y en a beaucoup qui font ce cheminement là.
Ouais. Bah, j'imagine qu'à force de mettre ta colère et ta rage au bout d'un certain temps, elle est évacuée.
Oui,
t'as envie de te calmer.
Tu évolues
en tant que musicien.
Tu évolues en tant qu'artiste.
Si
tu évolues tout le temps dans ta vie et tu passes par des phases, et ce que t'avais besoin en fait d'envoyer à un moment, bah ça se transforme en fait, ça devient autre chose.
Moi je suis quelqu'un d'assez calme en fait, et j'écoute la musique qui me permet de maintenir cet équilibre dans l'humeur, dans le comportement, et donc j'écoute beaucoup de trucs très très calmes. Et puis quand il y a des moments où ça va moins bien, ben peut-être qu'effectivement le métal m'aide à extérioriser tout ça et à revenir au calme après, quoi. C'est un équilibre en fait. La musique, je pense que c'est vraiment une thérapie au quotidien. Moi, il y a pas un jour où j'en écoute pas, quoi. Je me lève en musique, je m'endors en musique tous les soirs, et voilà.
Et le cinéma?
J'adore le cinéma. Depuis cette aventure éditoriale, je passe beaucoup 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 moins de temps devant les écrans.
Mais tu portes le cinéma sur ton bras.
Ouais.
Notamment une histoire.
Ah,
alors on va parler d'une histoire qui a été portée au cinéma.
Ouais.
Mais c'est quand même lié au travail de David Lynch, donc sur Elephant Man. Moi, c'est un film qui me touche énormément. Je pleure à chaque fois devant ce film-là. Je pense que c'est vraiment un de mes films préférés, un de mes films de chevet. Moi, je voulais vraiment savoir C'était quoi ta relation à cette histoire, à l'histoire de Joseph Merrick?
Il va falloir rajouter une heure et demie, Justin.
Ah, mais ça me va très bien.
J'étais conscient que je touchais quelque chose.
En fait, j'ai regardé ce film à l'âge de 6 ans.
D'accord.
Une très bonne idée de mon père.
Très bien.
Et bon, à la base, c'était une très bonne idée, le pauvre, mais je pense qu'il a décodé toute la beauté le beau message en fait que véhiculait ce film et cette histoire. Sauf qu'il n'avait pas pigé qu'à 5 ans, 6 ans, on n'a pas
difficile à appréhender.
Voilà, c'est ça.
Il y a des scènes terribles.
Ouais. Et donc, moi, je pense que la première chose qui m'a marqué, forcément, c'est cette difformité. Et j'ai toujours été très sensible aux difformités des gens. Et je pense que il y a quelque chose de très visuel, en fait. J'imprime ça et j'arrive pas à le décrocher de mon esprit pendant des semaines, et j'ai véritablement vécu ce visionnage comme un traumatisme, et je l'hallucinais la nuit, très violent. Mmh. Et mais rien que l'évocation, j'ai eu la musique du film qui a tourné dans ma tête pendant 13 ans et donc à 18-19 ans, je fais cette fac de psycho et je me retrouve à un moment où je me plais plus dans ce que je fais, donc j'arrête la psycho et j'ai un moment d'errance comme ça où j'écume la bibliothèque parentale et je tombe sur la biographie d'Elephant Man je me dis, ben tiens, j'ai jamais été capable de revoir le film, jamais été même capable de revoir en photo Joseph Merrick. Mm-hmm. Peut-être qu'en lisant ce livre, je vais l'appréhender différemment. Et là, ça a été une putain de claque, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 13 ans, et je pense que j'en ai voulu à mon père pour ça, pendant 13 ans, j'ai conservé le souvenir d'un monstre, d'une personne qui était absolument tout sauf monstrueuse, en tout cas, elle l'était malheureusement d'apparence, mais à l'intérieur, c'était un homme bien plus lumineux et beau que 99% de l'humanité, quoi. Et le hasard a voulu que, après avoir lu ce livre, le film est passé sur Arte, je crois, à l'époque. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai regardé comme ça. Et en fait, ce mec était devenu tellement beau, l'humain qu'il était devenu tellement beau, tellement lumineux, que ces difformités étaient devenues totalement accessoires. Et je me suis fasciné en fait pour ce personnage, pour son histoire. Alors si t'as vu le film, je te recommande vraiment de lire sa biographie, parce que il est très édulcoré.
Je connais un petit peu mieux son histoire.
Il est très édulcoré, le film de David Lynch. Mmh. Il y a beaucoup d'anachronismes aussi.
Oui, bien sûr, il y a des personnages qui sont rassemblés en un seul personnage. Il y a pas mal de choses qui sont différentes.
Et donc j'ai fait deux voyages à Londres. Mmh. Sur les traces de Joseph Merrick.
Ah oui, carrément.
J'ai entrepris du coup de le tatouer. C'était une manière de me dire
tout ton bras est tatoué. Bras, ouais.
À la base, j'avais juste reproduit une image du film, et parce que je me suis dit, je te le dois en fait. Pendant 13 ans, je t'ai vu comme tout le monde te voyait, comme un monstre, alors qu'en fait non, c'était juste quelqu'un de brillamment humain, de peut-être même plus humain que moi-même. Et je me suis dit, je vais diffuser ton message comme ça. Et du coup, je lui ai consacré tout un bras. Et donc, j'ai marché à Londres sur ses pas. Je suis allé dans l'hôpital dans lequel il a fini ses jours, qui donne juste en face de la petite boutique dans laquelle il était exhibé, qui aujourd'hui est un sinistre truc de smartphone et tout ça. Hein. Et puis j'avais l'ambition de voir sa dépouille, hein, son squelette. C'est les seuls restes.
Oui, en fait, on peut voir ses restes, en fait.
Alors, on peut plus, en fait.
On peut plus.
Avant, ils étaient accessibles au public. Là, ils ne l'étaient plus. Et quand je suis revenu à Metz, j'étais un petit peu deg, parce que j'ai appris qu'en fait, ils étaient accessibles à tout le personnel médical et paramédical. Donc, a priori, en me présentant en tant qu'infirmier, j'aurais pu y accéder. Ouais. Donc, j'écris au conservateur de ce musée à l'occasion d'un second voyage à Londres.
C'est parce que des pèlerinages pour toi.
C'est ça. Le conservateur du coup du collège de médecine de Londres, qui me dit t'es gentil mec, mais je vais pas te montrer Joseph Merrick comme ça. T'es qui? Tu viens d'où? Et donc je lui explique que c'est vraiment important pour moi, que c'est pas du voyeurisme, que c'est pas juste pour
comment dire, regarder mon bras.
C'est ça. Non, même pas. Je l'ai pas parlé de mon bras.
Ouais,
parce
ça ferait
que,
peur là. Ça.
mais je lui dis que voilà, ça faisait sens pour moi, que je que c'était important, quoi. Enfin, je sais plus exactement comment j'ai tourné ces échanges de mails, et au bout d'un moment, manifestement, je l'ai convaincu. Et donc, à l'occasion de ce second voyage, Alors c'est très marrant parce qu'il est vraiment dans une petite pièce ultra sécurisée, tu sais, c'est à peine s'il n'y a pas une reconnaissance faciale quand tu rentres dans le local et tout. Et t'arrives dans une toute petite pièce, un peu comme celle-ci, avec au milieu une vitrine et son squelette. Et j'ai vraiment eu le sentiment de non seulement de toucher un bout d'histoire, mais en plus de ça, me dire que j'étais face au squelette qui l'a porté, et face à ses derniers restes de lui, de ce qu'il a été, et de tout ce qu'il avait pu concentrer en moi comme peur dans un premier temps, et comme fascination, et comme aspiration aussi à devenir un homme meilleur, c'était bouleversant, quoi. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Et je pense que véritablement, on passe un temps con dans notre vie à se plaindre et de notre condition, de ce qu'on vit au quotidien. Et quand tu vois ce mec, en fait, qui a vécu une existence épouvantable et qui, pour autant, a resté jusqu'à la fin de sa vie un éternel amoureux de la vie, de l'homme, de la nature, du vivant, ben, à chaque fois que je le regarde sur mon bras, tu vois, ça me recentre un petit peu. Et ça, peut-être que c'est aussi un devoir de mémoire et une invitation à me dépasser en tant qu'humain.
C'est hyper beau aussi, le fait, tu sais, tout ton bras lui est consacré, et une personne extérieure qui ne connaît pas toute cette histoire et qui voit ton bras, ou qui sont peut-être pas très, qui connaissent pas trop la culture tatouage, etc., ils pourraient se dire, dis donc, c'est hyper glauque, en fait, de se tatouer, peut-être qu'ils n'ont même pas la référence, que c'est Elephant Man, etc., sur son bras. Et quand on a ton histoire, ces 13 années, etc., ton rapport au personnage, voilà, ça donne tout son sens et la beauté.
Ouais, puis bon, l'art du tatouage est énormément lié en fait à ce principe de raconter une histoire aussi. Il y a voilà, dans beaucoup de civilisations, c'est extrêmement important, quoi. C'est génial que t'aies écrit l'histoire finalement de Joseph Merrick.
Mais c'est ça, j'ai toujours envisagé le tatouage comme, enfin, j'aime bien envisager mon corps comme le musée de ma vie, en fait. Et donc je ne pose sur mon corps que des choses qui me racontent et qui sont importantes pour moi. Et voilà, je comprends que certaines personnes le fassent, mais j'ai jamais trop envisagé le tatouage comme quelque chose de juste esthétique, parce que j'aurais peur, pour moi en tout cas, qu'au bout d'un moment ce soit comme un tableau, t'es accroché à un mur, c'est que au bout d'un moment ça te plaît, puis quand ça te plaît plus tu l'enlèves, sauf que le tatouage, quand ça te plaît plus, ben tu peux l'enlever, mais c'est un peu plus chiant. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai posé que des choses qui font sens pour moi, qui me racontent des moments de ma vie, des souvenirs, peut-être des messages aussi. Et je me dis, même si ça me parlera moins dans, je sais pas, 10, 20 ans, ça figera quand même un moment de ma vie qui a compté pour moi. Et voilà.
Bah c'est Kiss, non, sur tes doigts?
Non, c'est Queen.
C'est Queen. C'est Queen, tu vois. Je suis.
Tu reconnais pas?
J'ai failli dire Kiss. Là.
J'ai tout entendu. On m'a déjà demandé un jour dans un restaurant pourquoi j'avais tatoué Staline sur mon doigt.
Oh, lequel?
Non, ça pourrait être Borat.
Ah oui, c'est Borat, ouais. Voilà. Un hommage à Borat.
Alors j'ai dit, c'est juste en attendant de mettre Hitler, Mussolini.
Quelle horreur. Non mais Queen, vite fait, bien fait. Pourquoi Queen sur les doigts, du coup? Ils t'ont accompagné, enfin je sais que t'aimes le groupe, mais...
Queen, c'est ma première émotion musicale. Hein. J'ai découvert Freddie Mercury, malheureusement, le jour de sa mort. J'avais 6 ans.
Vraiment le jour de sa mort.
Ouais. Et je pense que la première fois que j'ai écouté Bohemian Rhapsody, ça a été une claque mais monumentale, quoi, et qui m'a jamais quitté 31 ans plus tard.
J'ai une petite surprise pour toi, je pourrais te la montrer que tout à l'heure. Voilà, et c'est un petit teaser, et peut-être qu'on pourra la passer.
C'est le teaser qui dans l'épisode, voilà. Genre on va même pas pouvoir en profiter.
Okay. Pas tout de suite, mais on en profitera d'accord. Tout à l'heure.
D'accord, ouais, cool. D'accord. Moi j'ai pas grandi avec Queen, et pour préparer l'interview, j'ai failli regarder le film hier.
Finalement,
j'ai pas pu, mais voilà, tout ce pan culturel de rock classique comme Sinatra, comme les Guns N' Roses, comme Queen, Kiss. Moi j'ai pas vraiment grandi avec ça, j'ai tout de suite été dans quelque chose de beaucoup plus alternatif et de moins pop, quoi. Donc voilà. Mais je m'en veux là d'avoir dit Kiss alors que c'était Queen. En plus c'est vrai, Kiss,
mais
ils
après,
ont des
tu les auras reconnus.
Ils ont une seconde histoire, ces tatouages, c'est que j'ai posé sur mon corps deux souvenirs de la conception de mes bouquins, À la vie et Je serai là. Et c'est vrai que j'ai aimé y mettre beaucoup de musique parce que c'est ma grande passion, et parce que j'aimais l'idée, voilà, de glisser de la musique qui comptait pour moi dans ces bouquins. Et l'histoire de Roger, c'est une histoire que j'ai composée entièrement pour À la vie, qui ne préexistait pas sur les réseaux sociaux. Et il y a cette omniprésence de Queen dans cette histoire.
Bien
et
sûr.
Queen, qui en plus d'être une passion pour moi, a été un petit peu l'élément déclencheur qui a permis à ce patient de de se raconter un petit peu dans ses souffrances de personnes en fin de vie. Et donc, à l'issue de l'écriture d'À la vie, j'ai terminé du coup les trois autres membres de Queen, et c'était une manière, voilà, de
boucler la boucle,
de boucler la boucle et de faire un espèce d'hommage, on va dire, à cette BD, de la même manière que quand j'ai terminé Je serai là, dans lequel Björk est omniprésente aussi, j'ai tatoué la pochette de Vespertine de Björk sur mon bras. Donc voilà. Et là, pour ma prochaine BD, j'ai encore d'autres pistes.
Et donc, avant de passer à la toute dernière partie de cet épisode, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la suite?
Ouais, donc là, je suis en train de bosser justement sur ma troisième BD qui sera du coup plus autobiographique, mais qui s'inscrira dans la fiction. Ce sera plus une histoire qui me mettra en scène, ce sera une histoire qui, malgré tout, se nourrit et s'inspire d'énormément d'anecdotes vécues à l'hôpital. Donc on restera dans un milieu qui m'est cher et d'un milieu dont je sais parler, hein, le milieu hospitalier et le deuil notamment. Mais je serai plus au centre de ces histoires, et donc j'ai créé une histoire, une jolie histoire d'amitié entre deux patients, qui va les mener un petit peu sur des sentiers improbables et imprévus, et je pense que ça va être fort. Voilà. Il y aura énormément de Sinatra dedans, parce que l'un d'eux est fan de Sinatra. Il y aura énormément de rock aussi.
Cool.
Et
aussi, tu t'enlèves de l'équation.
Ouais. J'avais besoin de raconter quelque chose qui, je vais pas dire ne m'appartient plus parce que
c'est toi quand même, tu es l'auteur.
J'en suis l'auteur, et puis surtout, je te dis, ça s'inspire quand même d'énormément de vécu. Mais j'avais besoin de ne plus raconter mes aventures d'homme étoilé à l'hôpital, de me décentrer un petit peu du propos et de proposer quelque chose de différent. Et puis aussi, peut-être par peur de tomber dans la redite, parce que je trouvais que toutes les histoires d'À la vie étaient déjà très fortes. Elles ont tout un caractère très 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 fort. Et c'est difficile au bout d'un moment de te dire, voilà, je vais raconter quelque chose d'encore plus fort ou d'aussi fort ou quelque chose de différent, je sais pas. Donc je me suis laissé le temps, j'ai des histoires encore en stock que je préfère laisser dormir, et puis peut-être qu'un jour il y aura un autre volet, mais là dans l'immédiat je voulais proposer autre chose.
Et puis aussi avec toute cette pression médiatique ou ce que tu disais, on te reconnaît ou peut-être des attentes, ça fait du bien de souffler un peu.
C'est ça, et puis j'avais envie d'exister peut-être davantage en tant qu'auteur et pas en tant que super-héros infirmier ou ambassadeur de la philosophie palliative, parce que ça c'est un rôle que j'ai pas envie d'investir. En fait, je suis énormément sollicité pour assister à des congrès, donner des conférences, et que je refuse quasiment systématiquement parce que c'est je suis pas à l'aise avec l'exercice, et je me sens pas plus légitime qu'un autre pour parler des soins palliatifs, donc voilà.
Oui, bien sûr.
T'as été invité récemment aux journées Émergence, et t'as fait la rencontre de Mathieu Ricard, qui est l'interprète français du Dalai Lama. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, en fait, avec Mathieu Ricard?
C'était fou.
J'imagine.
C'était fou. J'étais dans le même hôtel que lui. J'ai petit déjeuner avec lui. Il a fait des petites blagounettes à ma fille. C'était improbable, mais c'est quelqu'un d'une sagesse assez incroyable, d'une bienveillance incroyable, et c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. En fait.
Là, je peux que recommander de lire ses ouvrages. C'est incroyable.
Et notamment son plaidoyer pour les animaux. Et il parle et tout le monde se tait. Et tu écoutes et tu t'abreuves en fait de son message de sagesse. Et c'était franchement, je me suis senti très reconnaissant ce jour-là, mais pas que de sa rencontre. J'ai rencontré pas mal d'autres très belles personnes, notamment un psychiatre qui était spécialisé dans l'accompagnement du deuil post-traumatique, et puis plein d'autres personnes. J'ai adoré ces journées parce que ça a vraiment été l'occasion d'aborder la mort avec beaucoup de sérénité. Et tu sais, moi, au quotidien, dans mon travail, mon rôle, c'est un petit peu justement d'accueillir les inquiétudes, l'angoisse autour de la mort, mais c'est rare qu'on en parle avec autant de simplicité et de lumière, en fait. Et là, en l'occurrence, ça a été l'occasion pendant 2 jours, et j'ai trouvé ça merveilleux. Ouais.
Et tu sais, ce que je trouve incroyable, c'est la boucle, parce qu'en fait, c'est la bande dessinée qui t'a amené en fait à vivre ce genre d'événement.
Ouais, c'est ça. Et c'est en ça que je disais que justement, je me sentais reconnaissant que cette aventure m'ait permis de de vivre cette rencontre et plein d'autres rencontres, même à la table de dédicace, en fait, je fais plein de superbes rencontres. Des personnes viennent me partager des anecdotes merveilleuses aussi, et ouais, c'est fou, en fait, de pouvoir vivre tout ça.
Trop bien.
Trop bien.
Alors, la dernière pièce du puzzle.
Ah, oui. La pièce du puzzle. C'est un truc particulier qu'on fait cette saison. Alors, j'ai posé mon micro. Ah, le temps de...
Oui.
Le temps de sortir la boîte à boxe. Merci, Xavier.
C'est une petite nouveauté dans cette saison 4.
En fait, voilà. Tout au long de la saison, on propose, et je le reprends, on propose à nos invités, en fait, d'ouvrir la boîte à boxe. Et à l'intérieur se trouvent 21 questions. Chaque fois qu'un invité prend une des questions, la question disparaît pour toujours.
Elle t'appartient, comme le tatouage.
Ah, exactement, c'est ça. Donc, je vais te demander d'ouvrir la boîte à boxons.
C'est... c'est un bon...
Alors, il y a pas de mauvaise surprise. Et en fait, alors, il y a des questions qui vont traiter de la transcendance, des questions qui vont traiter de la créativité, et des questions qui seront plutôt portées sur le chaos. Donc, on va voir ce que tu vas tirer. C'est une question jaune, donc c'est la créativité.
Qu'est-ce que tout le monde dans ton industrie créative devrait arrêter ou commencer à faire?
Sachant que t'as pas donné des conseils, ouais. C'est mal barré, là.
Quelque chose peut-être qui t'agace ou...
Bon sang de bois!
J'en ai aucune idée, en fait.
C'est le moment de balancer un truc.
Dans mon industrie créative devrait arrêter ou commencer à faire? Je sais pas. Une autre? Non, je sais pas parce que j'essaie vraiment de pas m'inscrire dans le jugement. Donc je suis toujours très mal à l'aise pour dire des autres ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Et en plus de ça, quand c'est en rapport avec ma BD, c'est encore peut-être plus compliqué, mais peut-être que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est juste de... J'aimerais, en fait, que les gens portent sur moi un regard aussi humble que celui que j'essaye d'avoir moi-même. C'est-à-dire que, véritablement, là je le dis avec simplicité, mais ça m'a un peu pourri, en fait, cette étiquette d'homme étoilé. C'est un peu parfois un fardeau à porter, et parfois c'est très compliqué. Encore la semaine dernière, dans mon service, on accueille une étudiante infirmière, et quand elle me voit, la première chose qu'elle me dit, c'est « Ah, mais c'est toi l'homme étoilé !» Et j'ai plus envie de ça, en fait. Parfois j'ai juste envie d'exister en tant que... En fait, j'ai besoin de cloisonner, voilà, tous ces rôles de ma vie, tu vois. J'ai besoin d'exister en tant que papa, en tant qu'infirmier, en tant qu'auteur. Mais j'ai pas envie de tout mélanger. Et l'homme étoilé, je le suis en BD, mais je le suis pas à l'hôpital. Et si je le suis à l'hôpital, ce n'est que dans les chambres de mes patients, dans ces moments que je partage avec eux. Et donc la seule chose que j'aimerais arriver à faire, c'est peut-être à expliquer aux gens que l'homme étoilé, voilà, c'est pas un super-héros, en fait, c'est juste un raconteur d'histoires. Et tant mieux si ces histoires font sens pour les gens, tant mieux s'ils y trouvent un message d'humanité, de bienveillance, d'amour, et si c'est rassurant pour eux. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé ces deux dernières années à déconstruire quelque chose, en fait. À déconstruire cette idée selon laquelle je suis un super infirmier, un ambassadeur de la médecine palliative, et non. Voilà.
C'était une super réponse. Merci Xavier.
Merci Xavier. Merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant.
Mais c'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
À bientôt. C'était notre épisode avec l'homme étoilé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Laurent?
Bah, j'ai trouvé vraiment hyper touchant l'échange qu'on a eu avec Xavier. J'ai vraiment l'impression de pouvoir vraiment aller explorer des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, hein, sur Sens Créatif, parce qu'on parle de la mort.
Oui.
Et Xavier est très généreux. Finalement, dans son partage d'expérience, c'est aussi fabuleux de voir que on peut avoir deux fronts, deux métiers dans deux univers différents et les rassembler, en fait, faire ces passerelles-là. Quelque chose qu'en fait qui vient de l'enfance pour lui, hein, les deux sujets viennent de l'enfance chez lui. Il a toujours voulu faire ça et il arrive tant bien que mal finalement à gérer tout ça, plus le succès aussi qui est pas évident quand
on en a parlé. Ouais.
Voilà, on a un métier qui est un petit peu confidentiel aussi. C'est pas tout à fait évident, en fait, de faire ce type de métier. Et quand tu rajoutes le succès d'un métier
différent dessus. Ça crée des perturbations, justement.
Ouais, j'ai beaucoup apprécié qu'il s'est ouvert à ce sujet-là, la médiatisation, le regard des gens dans la rue, à l'hôpital, les personnes qui le suivent sur Instagram.
Il a cette intimité, en fait, avec ses patients. Il a aussi ce lien qu'il a avec sa communauté. Enfin, je veux dire, il y a un gap très intéressant dont on a parlé avec lui.
Ouais, carrément. Donc, si vous ne connaissez pas encore La Métolée, on vous invite à le suivre sur Instagram ou à acheter une de ses bandes dessinées disponibles dans toutes les bonnes librairies de France. Et maintenant, il est temps d'écouter les témoignages de Quentin Dron qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club.
Merci Jérémy et Laurent, salut, c'est Quentin from Sydney, Australia et je suis une patate. Vous voulez une preuve ?
C'est qui la patate ?
C'est toi.
C'est moi la patate ?
Oui.
C'est pas faux.
Une grande
patate ?
Oui.
C'est pas faux non plus.
Toi aussi, tu veux être une patate ? Tu veux échanger sur plein de sujets ou problématiques liés au monde de la création ? Tu as besoin de conseils de pros ou juste de causer sur des sujets aussi variés que la parentalité versus la créativité ? Tu veux partager tes expériences de clients relous, genre « Quentin, tu peux m'envoyer une vidéo en JPEG, s'il te plaît ?» C'est une vraie histoire. Ou si tu veux tenter d'expliquer à Laurent Bazar pourquoi Matrix est le plus grand film de notre génération, rejoins-nous sur le Discord Sens Créatif. Et si tu veux aider les deux zozos, là, à proposer du contenu encore plus qualitatif si c'est possible, tu peux, comme moi, rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif financièrement. Les participations commencent à 5€ par mois, soit un postcard rose ou le logo d'une marque de fringues. C'est aussi une vraie histoire, ça. Bref, t'as tous les détails, bien plus encore, sur le site patateclub.com. Bon les gars, j'ai rempli ma mission là, c'est bon ? Je peux l'avoir maintenant, ma casquette Sens Créatif ?
Bye bye patate.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire sympa. Ou pas sympa, mais juste parler de nous quoi.
Ça serait cool. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et YouTube.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Vous trouverez le lien pour la newsletter ainsi que toutes les notes et les infos de cet épisode sur le site www.senscreatif.fr.
Et un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur ses différents réseaux @AdrienGuyMusique.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode un petit peu spécial en compagnie de Mai Hua et Grégory Puy du podcast Blanc que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur Sens Créatif. Ils reviennent pour un épisode un petit peu particulier. On vous en dit pas plus. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas,
Everything is connected.
Bye bye.
Bye bye patate.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.